Bonjour à tous. Alors, petite parenthèse, pour ceux qui sont habitués à ces enregistrements, le son il sera un petit peu différent parce que le message n'a pas été enregistré pendant le culte. Donc je vais le refaire à présent dans les conditions du direct pour que vous puissiez avoir l'étude suivie verset par verset de la lettre de Paul aux Corinthiens. Alors on va commencer par prier déjà. Seigneur, merci pour nous permettre d'être ensemble devant ta parole. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Parle-nous, c'est ta parole qui va nous éclairer. Seigneur, ouvre nos yeux et nos cœurs en Jésus-Christ. Amen. Alors, on continue notre étude suivie. Donc, on est dans la première épître de Paul aux Corinthiens. La semaine dernière, on était chapitre 1er, versets 10 à 16. On avait parlé des divisions dans l'Église. Eh bien, on continue la lecture du chapitre et on est toujours chapitre 1er et on est au verset 17 à 31. 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 17 à 31. Paul dit « De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela, sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Alors je vous propose de voir ensemble les particularités de la ville de Corinthe à l'époque de Paul, et puis ensuite un parallèle entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Notre verset clé, ce sera le 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Alors, Corinthe, la ville de Corinthe. Afin de comprendre le texte, il est important de bien regarder son contexte. Corinthe, c'était une ville majeure du monde grec au temps de Paul. Sur le plan politique et économique, Corinthe, c'était même la principale ville de Grèce à cette époque, devant Athènes. Elle comptait alors à peu près 100 000 habitants, ce qui était beaucoup pour l'Antiquité. Malgré son dynamisme et sa prospérité, elle souffrait d'une très mauvaise réputation. Dans la littérature grecque la plus ancienne, elle était même symbole d'immoralité. Lorsque Platon, le philosophe, parlait d'une prostituée, il utilisait l'expression « une fille de Corinthe ». Ça veut tout dire. La ville était célèbre, à l'époque, pour son temple de la déesse Aphrodite, qui comptait plusieurs milliers de prostituées sacrées. Une pratique que réprouvait l'Éternel, on va regarder dans Deutéronome 23, versets 18 à 19. Je vous laisse un petit peu de temps si vous ouvrez vos Bibles. Deutéronome 23, versets 18 à 19. La Bible dit « Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, ni aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras pas dans la maison de l'Éternel ton Dieu, pour l'accomplissement d'un vœu, le salaire d'une prostituée ou le prix d'un chien. » En effet, l'un et l'autre sont en horreur à l'Éternel, ton Dieu. on voit quand même que Dieu la met en parallèle, la prostitution et les chiens, hein, c'est quand même fort. Hein. Alors, voilà, un contexte vraiment Corinthe, une ville de débauche. C'est pourquoi un proverbe de l'époque, hein, de l'Antiquité, disait « Le voyage à Corinthe n'est pas pour tout le monde ». Et effectivement, on le sait, hein, voilà, le péché était toujours là dans la vie de ces chrétiens de Corinthe. C'est pas parce qu'ils s'étaient convertis que tout a été transformé. C'est comme les mauvaises herbes, vous savez. Si on les arrache, elles repoussent. C'est pas juste arracher, il faut déraciner. Il faut vraiment enlever la racine du mal pour qu'elle ne repousse plus. Alors voilà, dans le cœur de ces Corinthiens, peut-être qu'ils avaient un peu arraché le péché, mais il fallait déraciner. Alors, la ville et le temple d'Aphrodite avaient été détruites puis rebâties sous Jules César. Donc voilà, il y a eu quand même du nettoyage, on va dire, de fait. Mais les racines de la perversion restaient hélas bien présentes dans les mœurs des habitants de Corinthe. Et c'est le problème qu'on voit ce matin. Alors, Paul et l'église de Corinthe. Ça, c'était la ville de Corinthe. Maintenant, Paul et l'église de Corinthe. Ben, c'est dans ce contexte que Paul va demeurer à Corinthe pour fonder une église. Donc, il y avait toute cette historicité, cette ancienneté avec le temple d'Aphrodite, prostitution sacrée et tout. Ben, Paul vient ici fonder une église. Alors, on aurait pu dire, bon, pourquoi pas chercher une autre ville hein? Ben, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Hein. On l'a lu au verset 17. Pourquoi Paul vient? Qu'est-ce qu'il vient faire à Corinthe? Ben, il a un but précis. Donc, c'est ce qu'on a lu au tout début, hein, dans Corinthiens chapitre 1, verset 10 à 16. Donc là, c'est le verset 17, très précisément. Pardon, on a lu tout à l'heure 17 à 31, et là, c'est 17, verset 17. 1 Corinthiens 1, verset 17. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Évangéliser, voilà. Car malgré toute la débauche dans cette ville-là, Dieu savait que beaucoup de cœurs étaient disposés à accueillir la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Regardez avec moi, acte 18, versets 9 à 11. Donc, Nouveau Testament, acte 18, versets 9 à 11. Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit-il. Parle et ne te tais pas. Je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. » Alors Paul se fixa à Corinthe et pendant un an et demi, y enseigna la parole de Dieu. Il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient, dit Dieu à Paul. Et ensuite, Paul va rester à Corinthe un an et demi. Voilà. Alors nous, on vit à Nice. Hein, c'est une ville du sud de la France qui est bien connue. Elle est connue pour sa vie frivole. Hein. Nice, on y vient en vacances l'été pour faire la fête, comme on dit. C'est une ville où il y a beaucoup d'argent, beaucoup de vie nocturne et donc beaucoup de tentations inévitablement. Alors, regardez simplement combien on est dans les églises de dimanche. Hein. On n'est pas nombreux. Hein. La ville est grande, il y a 400 000 personnes. Et dans nos églises, on est voilà, quelques dizaines, une cinquantaine. Ce qui nous a amené souvent à nous dire, on est des pauvres dans une ville de riches, sur le plan matériel. Mais on pourrait aussi dire, sur le plan spirituel, nous sommes des riches dans une ville de pauvres. Nous sommes riches spirituellement dans une ville pauvre spirituellement. Mais n'oublions pas que, comme à Corinthe, Dieu a également un peuple ici à Nice que nous devons toucher par la parole de Dieu, par sa prédication. Alors, on a vu la ville de Corinthe, on a vu le contexte quand Paul arrive, il va fonder une église pour évangéliser. Et ensuite, alors voilà, on a l'église de Corinthe. Alors, c'est une église prospère, mais qui est gangrénée par le péché et la débauche. L'église de Corinthe, ben, en un an et demi, elle va vite grandir et prospérer, hein, il va y avoir un beau travail. Mais malheureusement, elle va rapidement être confrontée à de nombreux problèmes en son sein, notamment à cause de l'immoralité. Dans une ville qui était célèbre pour sa richesse, son paganisme et sa débauche, on imagine facilement que les mœurs n'allaient pas évoluer en un claquement de doigts chez ces nouveaux convertis. Les trois étapes de la vie chrétienne, c'est les suivantes. Justification, sanctification, glorification. Lors de notre conversion, on est justifié. Voilà, c'est la rédemption, la justification. Lorsque nous serons avec le Seigneur, après notre mort, on sera dans un corps glorieux, on sera glorifié. Donc, justification, glorification. Et entre les deux, bah, y a tout le chemin qu'on va faire avec le Seigneur qui s'appelle la sanctification. Et ça, ça prend du temps. C'est toutes les années de vie entre notre conversion et notre départ pour le ciel. C'est toutes ces années de vie où on va en fait marcher avec le Seigneur et on va essayer petit à petit de nous débarrasser du péché. Alors il y a des péchés, ça va être très vite à se débarrasser. Puis il y en a d'autres, ça va prendre plus de temps. Voilà. Si on connaît bien le Seigneur, on sait que parfois, il faut être patient. Quoi. Par exemple, j'étais végétarien lorsque je me suis converti. Je me suis converti végétarien et le lendemain de ma conversion, je n'ai pas mangé du poisson ou de la viande. Hein. J'ai attendu plusieurs mois. C'est même le lendemain de ma nuit de noces, voilà plusieurs mois après, que j'ai recommencé à manger de la chair. Alors, j'étais justifié, mais pas encore transformé à 100%. Dans cette lettre, Paul y parle à qui? Bah, des chrétiens, hein. Mais des chrétiens qui vivaient encore selon leurs anciennes habitudes de péché. Il ne va donc pas concentrer sa lettre sur la justification, donc le salut, ou la glorification, ce qui se passera à la fin. Mais lui, le plus important, ils avaient besoin de quoi, les Corinthiens? Bah, qu'on leur parle de sanctification. Donc, Paul va mettre l'accent sur ce point-là. Et il va leur parler de la sagesse. Sagesse du monde, sagesse de Dieu. Les Corinthiens, c'était quoi? Des Grecs. Alors, les Grecs, qu'est-ce qu'ils aimaient? Bah, les beaux discours de la sagesse. On l'a lu verset 22. Les Juifs demandent un signe miraculeux, et les Grecs, ils recherchent quoi? La sagesse. Mais est-ce que c'était une particularité des gens de cette époque? En Europe ou dans le reste du monde aujourd'hui, que recherchent les hommes? Bah, il y en a qui recherchent toujours la sagesse, hein. Ils aiment la philosophie, par exemple. Voilà, ils aiment bien lire les vieux auteurs grecs de l'époque, ou ceux plus contemporains, il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Ils aiment les grands intellectuels. En France, les membres du Conseil constitutionnel, vous savez comment ils sont appelés? Les sages. Voilà, la sagesse, voilà ce qu'on recherche. D'autres recherchent les miracles. Hein, les Juifs recherchaient les miracles, les signes miraculeux, les Grecs la sagesse. Alors, aujourd'hui encore, il y en a qui cherchent la sagesse, d'autres cherchent les miracles. Et il y a beaucoup de sectes qui profitent de ça, hein. C'est vraiment un terreau fertile pour elles. Le fondateur d'église de Scientologie, je dis église entre guillemets, hein, Ron Hubbard, disait « Si vous voulez devenir vraiment riche, fondez une religion ». Je crois que c'est la seule fois que cet homme a eu raison de sa vie, probablement, mais là, il avait raison. « Si vous voulez vraiment être riche, fondez une religion ». Et on voit comment ça marche aujourd'hui dans le monde. Il ne faut pas cacher non plus, hein, qu'il y a beaucoup d'églises évangéliques au sens large qui prolifèrent en promettant des miracles, des délivrances, des guérisons, etc. Sagesse, miracle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil entre le 1er siècle après Jésus-Christ et le 21e siècle. Voilà, il y a 20 siècles d'écart, 2000 ans, mais on voit toujours la même chose. Les miracles, la sagesse. Alors, les chrétiens, donc, bon grec, les chrétiens, pardon, lapsus. Maladroit, les Corinthiens, mais qui étaient des chrétiens aussi, mais là on s'arrête plutôt sur leur casquette corinthienne plutôt que leur casquette chrétienne. Donc les Corinthiens, en bon grec qu'ils étaient, ils recherchaient quoi? Bah, la sagesse et l'apparence des beaux discours, la rhétorique, on appelait ça la rhétorique, Aristote et tout ça. Toute une école de rhétorique, c'était être éloquent, bien parler, bien argumenter. On l'avait vu lors du message précédent, hein. Qu'est-ce qu'il était reproché, rappelez-vous? Deux choses aux Corinthiens. On peut relire dans 1 Corinthiens 4, verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, pardon, pas 8. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Eh bien, ils allaient au-delà de ce qui était écrit dans les textes et ils s'enorgueillissaient en prenant parti l'un contre l'autre. On a dit, hein, qu'il n'était jamais bon de sortir du texte biblique. Cela n'amène que des débats peu édifiants, voire des querelles. Ne sortez pas du texte biblique. Restez toujours dans la parole de Dieu. Ne rajoutez pas des interprétations déplacées, etc. La parole se suffit à elle-même. On l'explique, on peut rajouter des exemples, etc. pour la rendre parfois compréhensible à tous. Mais quoi qu'il en soit, ne sortez jamais de ce qui est écrit dans le texte. Vous pouvez donner des exemples et l'expliquer, mais restez bien concentré sur l'essentiel et n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Et donc, ils avaient la mauvaise habitude, ces Corinthiens, de dévier des textes pour y rechercher une autre forme de sagesse. Mais Paul les avertit. Cette sagesse du monde, c'est quoi? Aux yeux de Dieu, une folie. Ce que les hommes considèrent comme sage, Dieu le considère comme fou, les amis. C'est ce qu'il dit au verset 19 et 20. Toujours 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19 et 20. Du reste, il est écrit « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'heure actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Voilà, Dieu parle ici de quoi? Détruire la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Mais c'est quoi alors? Du coup, cette vraie sagesse, et comment on peut devenir intelligent? Alors, c'est quoi la vraie sagesse et la vraie intelligence? Parce que là, on nous dit que bah, quand c'est le monde, c'est fou. Alors, c'est quoi? Comment je peux savoir? Eh bien, on trouve la réponse dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Proverbe 9, verset 10. Il y aurait d'autres versets, mais je choisis celui-ci. Proverbe 9, verset 10. Où est-ce qu'on peut trouver la sagesse et l'intelligence? Eh bien, Proverbe 9, 10 nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu Saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Donc, craindre l'Éternel, ça permet de commencer à devenir sage. Et ensuite, il faut connaître Dieu pour devenir réellement intelligent. On ne peut pas être sage ou intelligent si on ne connaît pas le Seigneur. Ça, c'est une évidence biblique. Mais ce n'est pas ce qui dit le monde. D'ailleurs, dans sa lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul va mettre en garde contre les beaux discours trompeurs, notamment la philosophie. Colossiens 2, verset 8. On va lire ensemble. Colossiens 2, verset 8. Je laisse toujours un tout petit peu de temps pour vous laisser le temps d'ouvrir votre Bible si vous êtes peut-être sur une application mobile ou encore mieux, dans une vraie Bible, entre vos mains, devant vos yeux. Colossiens 2, 8. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Alors c'est quoi les particularités de ce type de texte ? Eh bien, la Bible nous dit des tromperies, donc qui s'appuient sur la tradition des hommes, des pièges, qui se basent sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et des pensées, qui ne s'appuient pas sur Christ. Des tromperies, des pièges et des pensées, et tout ça n'est pas christocentrique. Tout ça, c'est tradition des hommes ou des principes élémentaires. Je disais par exemple Confucius pour préparer ce message. Ce qu'il dit, c'est juste, hein. C'est pas idiot, hein. Mais c'est des principes élémentaires. Par exemple, sois gentil avec les autres et les autres seront gentils avec toi. Très bien, c'est presque une vérité de la palisse, comme on dirait en France. Mais ça, c'est des principes élémentaires qui régissent le monde. Si on est gentil avec les autres vont être aimables avec nous, ça paraît logique. C'est vrai, c'est exact, mais c'est pas inspiré divinement. Voilà, des principes qui régissent le monde. Alors on peut passer notre chemin, mes amis, lisons plutôt notre Bible. Ne cherchons pas Aristote, Platon, Socrate ou Confucius ou autre. Pour être sage et intelligent, on l'a lu, il faut d'abord craindre l'Éternel et ensuite vraiment le connaître. Et on ne va pas trouver l'Éternel ni le craindre dans les écrits de Confucius ou Aristote. La sagesse des Corinthiens n'était finalement qu'une sagesse bien mondaine qui ne faisait qu'égarer les hommes et attisait l'orgueil et les rivalités. Voilà le résultat. La sagesse de Dieu est une folie pour le monde. À cette sagesse du monde, voilà, celle qu'on vient de voir avec la philosophie, avec tous ces principes élémentaires, etc., Paul va opposer un parallélisme. Voilà la sagesse du monde, il va mettre en parallèle la sagesse de Dieu. Et Paul va faire un constat, la sagesse des hommes ne permet pas de connaître Dieu. Alors le Père a choisi un autre moyen de salut. 1 Corinthiens, versets 21 à 23. Toujours le chapitre 1. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Alors ça, le monde ne veut pas l'accepter. Hein. Dire aux gens de placer leur salut dans un homme cloué sur une croix, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Vous êtes insensé, vous êtes faible, voire vous êtes fou. Et pourtant, on lit quoi au verset 24-25? Cette prédication du Messie en croix qui meurt pour le péché du monde, c'est quoi? C'est une puissance de Dieu, la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Donc par la mort de Christ sur la croix, la prédication de cette mort, Dieu manifeste sa puissance et sa sagesse. Alors c'était la volonté de Dieu à l'égard de Jésus, justement. Hein. Dieu a voulu que Christ meure sur la croix pour nous et Christ l'a accepté volontairement. Et tout ça, c'était pour notre salut. Regardez verset 30, on est toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Donc Christ est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse. Et même plus, il est devenu quoi ? Notre justice, la source de notre sainteté, notre libérateur. C'est ce qu'on lit dans ce verset, hein. 1 Corinthiens 1, verset 30. Donc Christ est devenu pour nous, en plus de notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté, notre libérateur. Eh bien, c'est des trois étapes de la vie chrétienne qu'on a vues tout à l'heure. Notre justice, c'est quoi ? La justification, c'est le salut. La source de notre sainteté, c'est la sanctification. Et notre libérateur, c'est la glorification. On retrouve bien les trois étapes. Et Christ est venu et nous bénit à chacune de ces étapes. Justification, sanctification, glorification. Notre sagesse pour nous chrétiens donc se résume en Jésus-Christ. Et nous avons tout en lui. Justification, donc sanctification et glorification. Alors mes amis, c'est bon de rechercher la sagesse. Hein, mais où est-ce qu'on va aller la chercher, nous en tant que chrétiens ? En Jésus-Christ. Très bien, Alors ça, si vous êtes des chrétiens, si vous écoutez ce message et que vous êtes chrétien, vous allez dire « Amen ». Et si vous n'êtes pas chrétien, vous allez me dire quoi ? Oui, Jésus, d'accord, un sage. Et pourquoi je ne pourrais pas aller voir Bouddha, Confucius, Socrate, Gandhi en Inde ? Pourquoi ? On a la réponse dans la Bible. Colossiens 2, verset 3. Regardez pourquoi nous, on n'a pas besoin d'aller autre part, nous, en tant que chrétiens, pour aller chercher la sagesse. La Bible dit, regardez, Colossiens 2, verset 3, « C'est en lui, en Jésus-Christ, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Qu'est-ce qui est caché en Jésus-Christ ? Des trésors de la sagesse et de la connaissance ? Non, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il y a des gens qui se tatouent, vous savez, se font des tatouages, Jésus d'un côté, sur le bras droit, et Bouddha sur le bras gauche. Pas la peine, les amis, pas la peine. Pas la peine de quoi ? De se tatouer, déjà. Dieu dit dans l'Ancien Testament qu'il réprouve cela, hein, les incisions sur le corps. Et il dira plus loin que le corps est le temple du Saint-Esprit. J'espère que vous n'auriez pas l'idée d'aller faire des graffitis et des tags dans le temple du Saint-Esprit, donc pourquoi vous en feriez sur vous ? Donc, pas besoin non plus de se tatouer Jésus d'un côté, Bouddha de l'autre. On a tout pleinement en Jésus-Christ. On n'a pas besoin de la sagesse du monde. Comme aimaient le rechercher les Corinthiens, ils étaient très dans la sagesse du monde, hein. Ils sortaient des textes. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, mes amis. Donc pour commencer à devenir sage, il faut craindre Dieu. Pour être vraiment intelligent, il faut connaître Dieu. Et comment connaître Dieu ? Par Jésus-Christ, car c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors, je vais conclure. J'aimerais résumer juste le plan de ce que j'ai vu avec vous. On a vu, donc, premièrement, les particularités de la ville de Corinthe à l'époque de Paul. C'était une ville majeure d'Antiquité. C'était le siège d'une église prospère, mais gangrénée par la débauche, parce que son environnement avec le temple d'Artémis, etc., de Diane, c'est de la prostitution sacrée, tout ça, ça avait répercussions sur la société. Donc, c'était le siège d'une église belle et prospère, mais gangrénée par la débauche. Et bien que la sanctification, c'est un processus qui prend toute la vie, les amis. Jusqu'au dernier jour, on sera encore bien imparfait. Même si le Seigneur nous dit que nous sommes saints, mais nous savons qu'en nous-mêmes, lui nous voit saints par Jésus-Christ. Mais oh là là, il y a tellement de travail en nous. Donc, particularité de la ville de Corinthe à l'époque de Paul. Ensuite, on a vu la sagesse du monde. Donc, des Corinthiens qui étaient amoureux des beaux discours, telle sorte qu'ils en sortaient même des écrits inspirés. Ils allaient voir à l'heure dans la philosophie, etc., d'autres choses. Et que cette sagesse, bah, c'est une folie qui les conduisait à la querelle et à l'orgueil. La vraie sagesse, on a vu, ça consiste à craindre Dieu et à le connaître. Et donc, en parallèle à la sagesse du monde, Paul présentait la sagesse de Dieu, donc puissance et sagesse de Dieu qui sont manifestées à la croix par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est notre justice, la source de notre sainteté, notre libérateur. Donc, justification, sanctification, glorification. Et en lui, en Christ, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors j'aimerais conclure avec la légende du roi Sisyphe. Est-ce peut-être que certains d'entre vous la connaissent ? Ça vous rappellera peut-être quelques souvenirs. C'était une légende grecque. Selon cette légende, Sisyphe était roi à Corinthe. Mais pour avoir défié les dieux avec son caractère insolent, il fut condamné à pousser éternellement un rocher en haut d'une montagne, vous vous rappelez ? À chaque fois que il réussissait, donc quand il arrivait tout en haut, il se passait quoi ? Le boulet, le rocher, il redescendait de l'autre côté jusqu'en bas. Et il fallait qu'il recommence toujours cette même tâche, remonter le boulet qui redescendait éternellement. Alors le philosophe français Albert Camus, un peu plus contemporain, a vu dans cette légende la condition de l'homme moderne, l'absurdité d'une vie sans but. On fait toujours, voilà, l'homme moderne, il fait toujours la même chose, routinier. Voilà, c'est ce que le philosophe Camus avait vu dans cette légende. Si notre ami Albert Camus avait lu sa Bible, il a peut-être lu, mais s'il avait bien lu sa Bible, il aurait vu que la vie avait un but, et un but magnifique et glorieux pour ceux qui se confient en Jésus-Christ. Alors mes amis, où en êtes-vous ? Est-ce que vous êtes toujours en train de pousser encore et encore ce rocher en haut de votre montagne ? Vous êtes toujours dans cette routine et votre vie n'a pas de but ? Ou alors est-ce que vous êtes sage et intelligent selon ce monde ? On vous dit, oh lui il est sage et intelligent, mais on a vu qu'on ne peut pas être sage et intelligent si on ne connaît pas Dieu. Ou alors, est-ce que vous êtes sage selon Dieu et que vous avez donné vraiment votre cœur à Jésus-Christ ? Donc soit vous êtes fou, vous êtes encore en train de pousser le boulet, soit vous êtes fou, même si on vous voit sage et intelligent dans le monde, soit vous êtes vraiment sage et intelligent parce que vous avez donné votre cœur à Jésus-Christ. C'est ce que dit la Bible. Seule la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix peut nous conduire à Dieu si nous le croyons et l'acceptons dans notre cœur. Je vais prier et je vais inviter ceux qui le souhaitent à donner leur vie au Seigneur Jésus à présent. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est profonde, sage, intelligente, Seigneur. Il y a en toi tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et en lisant notre Bible, la Bible te révèle et on découvre tous ces trésors de sagesse et d'intelligence. Seigneur, je veux prier pour ceux qui ne t'ont pas encore donné leur cœur. Peut-être certains des auditeurs à présent sont en train de pousser leur boulet, Seigneur, jour après jour. La dureté de la vie, Seigneur, la pénibilité du travail, des épreuves. Et tous les jours, sans cesse, le boulet redescend, ils doivent recommencer. Cette vie sans but. Seigneur, peut-être certains des auditeurs en sont là, vous êtes peut-être dans cet état-là. Vous êtes peut-être sage et intelligent sur le long monde, vous avez une belle position sociale, vous avez une belle position professionnelle, on vous dit sage, intelligent dans tout ce que vous faites. Mais avez-vous vraiment Dieu dans votre cœur? Est-ce que devant Dieu, le Seigneur pourrait dire que vous êtes vraiment sage et intelligent selon ses critères à lui, pas les critères du monde? On a vu que la sagesse du monde, c'est une folie pour Dieu. Est-ce que le monde considère comme sage? Dieu le considère comme fou. Est-ce que vous êtes sage et intelligent devant les hommes? L'êtes-vous devant Dieu? J'aimerais vous donner l'opportunité, si vous le souhaitez, de faire la paix avec Christ et être vraiment ensuite justifié pour ensuite enclencher ce chemin de la sanctification jusqu'à la glorification. J'aimerais vous donner l'opportunité de dire oui Seigneur, je veux venir à toi. Je reconnais Seigneur que la vie est difficile et qu'elle n'a pas de but pour moi. Je n'ai pas trouvé le but à ma vie. Ou alors oui, j'ai de la réussite dans ce monde, mais c'est aux yeux du monde. Et devant toi, c'est que pure folie. Seigneur, je reconnais que Christ a tout donné sur la croix, tout payé pour moi, qu'il est ton Fils bien-aimé, qu'il a payé à la croix le prix de tous mes péchés, parce que j'ai péché, Seigneur. J'ai au moins menti, voire volé, ou d'autres choses, Seigneur. Tout le monde a péché, c'est ce que dit la Bible aussi. Seigneur, je veux te donner mon cœur ce matin, je veux faire la paix avec toi, je veux recevoir Christ dans mon cœur, qui est la sagesse et la vérité, celui que tu avais préparé de toute éternité pour notre salut. Que ceux qui veulent faire cette prière la fassent dans leur cœur à présent. Et si vous voulez ensuite échanger, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site de l'église, ebbn.org, vous y êtes si vous avez trouvé ce podcast. Vous les allez dans la partie contact et vous nous écrivez. On serait heureux d'échanger avec vous et de prier pour vous. Sinon, sur la page Facebook, ebbnice.com. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, touche les cœurs dans le nom de Christ. Amen.